matin, édition spéciale.
Yves Calvi. Nous poursuivons notre matinée spéciale en hommage à Jacques Chirac et nous allons évoquer avec Monique Younes, qui est à mes côtés, l'homme de culture qu'il était avec notre invité, l'ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon. Bonjour Jean-Jacques Ayagon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un proche de Jacques Chirac, vous faisiez partie de son entourage depuis 1985. Françoise Giroud, qui fut secrétaire d'État dans le premier gouvernement Chirac, disait « La plupart des hommes politiques lisaient Playboy en le cachant dans un livre de poésie. Jacques Chirac, lui, mettait son recueil de poésie dans Playboy. Pourquoi a-t-il longtemps brouillé les pistes sur ses passions artistiques, sur sa très grande culture et ses curiosités finalement intellectuelles et curiosités tout court. Comment expliquez-vous ça ?
Ça tient un trait de son caractère, à sa pudeur. C'est un homme qui n'aimait pas se montrer, qui n'aimait pas dévoiler son intimité, qui cultivait, comme il le disait lui-même, son jardin secret. Alors en effet, il a pendant longtemps tenté d'accréditer l'idée qu'il était un culte, oui. Qu'il n'aimait que la musique militaire, oui. Et les spectacles un peu grossiers.
Voilà.
Et en fait, c'était un homme extrêmement distingué, extrêmement subtil, curieux de beaucoup de choses, et notamment de choses qui n'intéressent pas tout le monde. Tout ce qui relève des civilisations les plus lointaines, les plus éloignées de nous, les plus éloignées du champ de notre culture.
On va effectivement revenir là-dessus, mais quand on fait le bilan culturel de Jacques Chirac, on se rend compte qu'il est vraiment conséquent. Je vais énumérer, vous allez me les commenter, rénovation du musée Guimet, musée qu'il a quand même visité dès ses 14 ans, création du pavillon des sessions et le département des arts de l'islam au Louvre, musée d'art et d'histoire du judaïsme, cité de l'immigration, le centre Pompidou, m'avez-vous dit, on ne se souvient pas de ça?
Oui, bien sûr, si le centre Pompidou existe, c'est parce que Chirac, Premier ministre, s'est opposé au président de la République de l'époque, son président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui, peu sensible à ce projet de Georges Pompidou, avait envisagé de l'amputer, même d'y mettre fin. Jacques Chirac intervient avec beaucoup de vigueur auprès du président de la République, met sa démission dans la balance, et c'est comme ça que le projet sort définitivement de terre.
C'est incroyable parce que le centre Pompidou nous fait rayonner dans le monde entier, hein, comme centre de référence en termes d'art contemporain.
C'est le grand centre national d'art et de culture, hein, c'est ce centre par lequel Georges Pompidou avait voulu réconcilier notre pays avec les expressions artistiques de notre temps.
La modernité.
La modernité.
Alors, vous le retrouvez aussi, Jacques Chirac, avec le centre Pompidou-Metz, le Louvre-Lens, le Louvre à Abu Dhabi, la Maison européenne de la photographie et bien sûr le musée du Quai Branly qu'il a inauguré le 20 juin 2006 et qui porte aujourd'hui son nom.
Ces peuples, dits premiers, sont riches d'intelligence, de culture, d'histoire. Ils sont dépositaires de sagesse ancestrale, d'un imaginaire raffiné, peuplé de hautes expressions artistiques, dont les chefs-d'œuvre n'ont rien à envier aux plus belles productions de l'art occidental.
Jean-Jacques Ayagon, quel rapport établissait Jacques Chirac entre la culture et la politique ?
Il estimait que la culture nous imposait des devoirs. Ce n'était pas un esthète qui admirait seulement les pièces de l'art africain, de l'art précolombien, de l'art chinois, les bronzes archaïques. Il savait que cette disponibilité de notre part aux cultures de tous les peuples, de toutes les civilisations, de tous les continent devait nous conduire également à envisager la politique du monde de façon particulière. Il refusait la domination de l'Europe ou d'une partie de l'Europe sur le reste du monde. Il savait qu'au dialogue des cultures devait correspondre également le dialogue des peuples s'agissant des grandes affaires de la politique internationale ou de la politique tout court. S'il s'est refusé à s'engager dans la guerre, s'il a refusé d'engager la France dans la guerre en Irak, c'est également au nom de cette conviction que les peuples ne devaient pas seulement s'opposer, mais qu'ils devaient également se parler et tenter de trouver des compromis.
De quand date la passion de Jacques Chirac pour les arts premiers et comment est-il rentré en contact avec cet univers qui est un univers très particulier ?
C'est une inclinaison en quelque sorte très très ancienne. Dès son adolescence, sa sensibilité le porte à la fois vers la poésie, c'est sans doute, et ensuite il est évident que Georges Pompidou jouera un très très grand rôle dans cette dans l'épanouissement de cet intérêt de Jacques Chirac pour la poésie, mais également d'abord sa curiosité, ensuite sa passion, ensuite sa science, parce que c'est un type qui travaillait tous ces sujets, qui en avait une connaissance extrêmement approfondie.
Vous voulez nous dire, que Jean-Jacques Ayagon, qu'il poursuit une réflexion, même président de la République, sur cet univers et cette culture des civilisations anciennes.
Bien sûr, écoutez, maire de Paris, président de la République, il continuait de travailler sur ces sujets. Il recevait dans son cabinet, notamment le samedi et le dimanche, de grands experts, des archéologues, des conservateur de musée, je pense à Jean-François Jarige qui dirigeait à ce moment-là le musée Guimet. On lui apporte des revues rares, les résultats de fouilles en Asie centrale ou ailleurs dans le monde. Il annotait ses articles, il les surlignait de jaune, il glissait des fiches dans des chemises en plastique, il se constituait une documentation et il avait même entrepris, ce qui est tout à fait révélateur de sa façon de considérer l'histoire du monde, il avait entrepris la rédaction d'une chronologie universelle des civilisations.
Un tableau synoptique de l'histoire de l'humanité sur le plan civilisationnel.
Parce que pour lui, l'humanité était une, et il voulait à chaque moment savoir ce qui se passait sur chacun des continents, en l'an 1000, qu'en était-il en Chine, qu'en était-il dans les Amériques d'avant leur découverte, en moins 500 avant notre ère, qu'en était-il en Afrique, par exemple. Il voulait s'emparer de l'histoire de l'humanité de façon globale. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, au Louvre-Lens, la création d'une galerie du temps a été une initiative, finalement, qui correspondait tout à fait à sa façon de voir l'histoire des hommes.
Effectivement, vous le dites, que Jacques Chirac était également passionné par la préhistoire. Il s'intéressait aux origines de l'homme, en particulier au mystère de ses origines géographiques. Il s'entretenait souvent avec Claude Lévi-Strauss et particulièrement et il suivait les découvertes archéologiques du paléontologue Yves Coppens qui m'a raconté cette anecdote. Écoutez.
Au moment de la découverte d'un très vieux fossile de 7 millions d'années qui s'appelle Sahelanthropus, il nous invitait à l'Élysée uniquement pour ça, quoi. Et il était fasciné. Et moi, j'arrivais de Sibérie où j'avais fouillé et découvert des mammouths. Je lui avais apporté une touffe de poils de fourrure de mammouth. Il avait pris ça avec grand intérêt. Et ensuite, il y a une photo commune. Il ne savait pas comment se tenir avec cette touffe de poils de mammouth. C'est drôle. Il se la mettait en bouquet de fleurs. Il se la mettait devant lui. En fait, de toute façon, c'était pas portable, quoi.
Alors, nous, journalistes, nous avons commencé à nous rendre compte de la familiarité de Jacques Chirac avec notamment la culture japonaise en 86, quand il y a eu cet événement Tokyo-Paris. Et c'est là qu'on a découvert sa passion pour le théâtre no, pour la porcelaine japonaise. Il avait d'ailleurs fait organiser un tournoi de sumo au Palais Omnisports de Bercy où tout le monde ricanait. Et en 1994, il décide de marquer le 5e centenaire de la découverte de l'Amérique, non pas par un hommage à Christophe Colomb, mais par une exposition au Petit Palais consacrée aux Taïnos, qui était cette ethnie amérindienne. Est-ce que Jacques Chirac était conscient du caractère provocateur de ces initiatives ?
Il y avait chez lui une part, en effet, de provocation. Il ne programmait pas ces grands événements pour provoquer, mais il voyait bien que ça en dérangeait certains. Et le fait que certains estiment que finalement l'intrusion de ces cultures lointaines dans l'espace sophistiqué de notre culture occidentale, c'était quelque chose d'incongru aux yeux de certains, ça le ravissait. Il prenait plaisir à cette forme de provocation. Quand il a fait venir un tournoi de kabuki au Palais Omnisports de Bercy, c'était en 1984.
De sumo,
le kabuki, on l'a fait venir
bien
également
sûr,
au théâtre Mogador.
Et
c'était
oui.
Avec le grand acteur japonais Tamasaburo Bando. Mais donc le sumo, il savait très bien que le sumo ce n'était pas un sport seulement, que le sumo était un acte religieux, un rituel. D'ailleurs, un tournoi de sumo commence par des actes de purification. Les lutteurs prennent du sel, répandent ce sel sur la piste, se purifient. Hein, c'est une façon de communiquer avec les esprits. Mais par ailleurs, il y a naturellement dans le sumo également un caractère sportif, parce que ces types qui se jettent l'un sur l'autre sont également des athlètes.
Et avant de marquer une pause, il a également dans sa jeunesse voulu, paraît-il, apprendre le sanskrit et aurait nourri le projet de devenir traducteur. Est-ce que vous nous le confirmez ? Et si c'est le cas, pourquoi a-t-il renoncé ?
Je crois qu'il a renoncé parce qu'il s'est mis à faire autre chose.
Et notamment, qui s'appelle la politique.
Et à faire de la politique, c'était peut-être incompatible avec l'apprentissage et la pratique du sanskrit. Il avait également appris le russe. Il en a conservé d'ailleurs quelques éléments assez solides, ce qui lui permettait, par exemple, en Russie, avec ses homologues, de dire quelques mots dans leur langue. C'était un homme. Pardonnez-moi, tout à l'heure, j'ai dit un type. C'était cette familiarité peut sembler déplacée pour au moment où Jacques Chirac s'éloigne et vient de mourir, mais il y a dans ce mot pour moi une forme d'affection. C'était en effet un personnage assez exceptionnel, curieux de beaucoup de choses. Et s'agissant de sa politique culturelle, même quand il était question d'un domaine de l'expression culturelle qui ne l'intéressait pas beaucoup, la musique par exemple, il savait néanmoins qu'il fallait mettre en œuvre une politique musicale et faire confiance à Pierre Boulez ou à Marcel Landowski.
On vient d'avoir une confirmation à l'instant même. Jacques Chirac sera donc inhumé au cimetière du Montparnasse auprès de sa fille Laurence. C'est officiel, c'est la famille Chirac qui vient de le faire savoir. On marque une pause dans cette émission et on vous retrouve, Jean-Jacques Ayagon, pour continuer ce parcours absolument passionnant et d'une incroyable richesse qui est celui de la vie culturelle et, j'ai envie de vous dire, la vie intérieure du président Chirac.